Donc bonjour, on va commencer la première séance de ce matin et je vais tout de suite donner la parole à Marie-Christine Lesage, donc, qui est maître de conférence associée à l'Institut d'études théâtrales de Paris 3, qui enseigne et publie sur les dramaturgies contemporaines et sur la question de l'interdisciplinarité au théâtre. Je ne vais pas annoncer le titre de ta communication qui a changé.
Alors il faut tenir le micro comme ça. Est-ce que vous m'entendez si je parle comme ça? Ça va? D'accord, merci.
C'est pour un problème de captation.
C'est pour la captation?
Oui, parce que tout est enregistré.
Bien.
Et peut-être vous entendez quand même, on ne peut pas vérifier.
Bon, c'est pas grave, c'est simplement parce que si je vais lire des extraits. Bon, écoutez, donc ma communication devait porter sur quelques voix féminines de la dramaturgie québécoise contemporaine. Enfin, étant donné les changements au programme, deux intervenants du Québec devaient venir. Leur intervention devait porter, entre autres, sur Carole Fréchette. Et comme ils n'ont pas pu venir, disons que j'ai accepté de me sacrifier, n'est-ce pas, pour parler de Carole Fréchette plus précisément. Si vous le voulez, ensuite on fera une ouverture sur des auteurs plus contemporains. Donc je vais vous présenter en fait un aspect de la poétique de ces textes, en parlant surtout autour de la pièce « Les quatre morts de Marie », et dont on entendra d'ailleurs une lecture demain, et « Le collier d'Hélène », sur lequel je ferai un commentaire en terminant. Donc, ce qui frappe à la lecture des pièces de Carole Fréchette, c'est ce qu'on pourrait nommer l'immaturité de la forme dramatique comme de son fond. Alors, il ne faut pas entendre ici comprendre la notion d'immaturité comme un jugement de valeur qui serait péjoratif. Je l'utilise plutôt au sens où l'entend l'auteur polonais Witold Gombrowicz, qui a développé dans ses journaux toute une pensée autour de cette notion de l'immaturité dans la création littéraire. Pour lui, l'immaturité, c'est une qualité nécessaire à l'invention poétique comme à la vitalité de l'écriture. Donc, je me suis replongée dans ses écrits et il me semble que cette notion m'a paru entrer en résonance avec ce qui caractérise, pour une part du moins, l'écriture de Carole Fréchette, mais aussi, si j'avais eu le temps, j'en aurais parlé, mais aussi donc plus largement avec une certaine dramaturgie québécoise contemporaine. Donc, je vous présente très brièvement la notion d'immaturité telle qu'elle est pensée par Gombrowicz. Donc cette question de l'immaturité, elle apparaît à divers endroits de ses écrits, surtout dans ses journaux. Elle demeure une notion multiforme, un peu difficile à cerner. Ce que j'en retiens donc ici pour mon propos, c'est qu'elle est reliée essentiellement à la jeunesse que l'auteur associe à l'inférieur, au cadet, mais surtout à une énergie qui ne va pas sans une certaine violence contre tout ce qui est adulte et formé, sans toutefois se réduire à une simple révolte contre les formes sociales de l'existence. L'immaturité est pour lui symboliquement comme la jeunesse qui l'incarne dans la vie, à la fois attirante, séduisante et repoussante laide, parce que constituée de forces rudimentaires, mal définie, qui renvoie l'être à un fond anonyme, informe, qui peut être inquiétant. Donc la notion prend donc en partie appui sur une opposition à tout ce qui a une forme, comme l'adulte, possède une personnalité sociale, psychologique, déterminée, finie. L'immaturité, donc, est en partie, selon Gombrowicz, toujours attirée par la force de la forme mature, tout en pressentant sa clôture, son enfermement, la perte de liberté qui s'y associe, d'où le combat paradoxal fait d'attirance et de répulsion qui s'engage contre elle. En fait, Gombrowicz fait de l'immaturité, de cette immaturité existentielle, une métaphore des exigences de la création littéraire et poétique. L'imposition de la forme est vue, pour lui, comme une négativité. Elle est le lieu de la dégradation de l'homme et de l'œuvre par le monde. Et l'artiste, tout comme le personnage, doit opposer sa propre immaturité au monde formé et fermé qui fait pression sur lui, cherchant à lui conférer une identité, à l'enfermer dans une forme sociale sérieuse, trop sérieuse et posée. Par extension, L'œuvre doit, dans sa forme même, suivre cette éthique de l'immaturité afin de s'imposer dans toute sa vitalité et sa violence. Elle doit constamment et paradoxalement échapper à sa propre... Ça va? Échapper à sa propre forme, tu sais, la fuir en demeurant une forme non achevée, une maturité non achevée, et que cet inachèvement ou cette ouverture de l'œuvre propre à l'immaturité, loin de l'affaiblir, ne peut que lui donner des forces et devenir un germe de vitalité et d'invention politique. Poétique, pardon. Politique éventuellement. Donc, l'immaturité renvoie donc à un mode d'être au monde, une façon d'échapper aussi pour Gombrowicz à la tyrannie de la collectivité, mais aussi et surtout à une invention poétique qui s'oppose à la tyrannie de la forme efficace, bien faite, normée. Bon, j'avais un petit pont que je faisais avec les écritures contemporaines québécoises que je saute, donc pour aller directement à l'œuvre de Carole Fréchette. Donc, on retrouve dans les pièces de Carole Fréchette des traces de cette immaturité au sens où l'entend Gombrowicz, mais qui passe davantage par la façon que l'auteur a de construire des fables décalées par rapport au réel et qui déploie un univers débridé, un peu de conte pour adultes. Je dis que l'on retrouve des traces de cette immaturité parce que son écriture met en jeu celle-ci, sans toutefois que l'on retrouve le trouble et même l'inquiétude que peut et doit faire naître cette énergie de l'informe telle qu'elle est pensée par l'auteur polonais. L'écriture de Carole Fréchette crée des univers qui s'opposent systématiquement et de façon critique au réalisme du monde adulte et plus particulièrement à celui fondé sur l'exacerbation de l'individualisme. Cependant, quoique critique, sa forme dramatique, même débridée, ne pousse pas toujours le jeu jusqu'à ébranler plus violemment les forces qui portent le monde. Et cela parce que, à mon sens, ce sont des pièces saturées d'humanité, ce qui n'est pas un défaut en soi, mais celles-ci empêchent parfois l'exploration d'un fond plus troublant et tranché, propre à cette vision de l'immaturité. C'est que les personnages chez Fréchette, tout en déployant un monde imaginaire et poétique qui s'oppose radicalement au monde adulte, à son réalisme, cherchent malgré tout à être reconnus, aimés par l'autre, par la collectivité. « Regardez-moi, reconnaissez-moi, aimez-moi », nous disent-ils d'une pièce à l'autre, « je n'existe que par vous, par votre regard, votre reconnaissance, votre toucher sur ma peau ». Le besoin d'être aimé et reconnu prime des forces parfois plus rudimentaires et obscures que pourrait faire surgir l'immaturité, que par ailleurs travaille aussi, comme je l'ai dit, son écriture. En fait, elle se situe dans l'entre-deux d'une sorte d'effronterie libératrice propre à une énergie juvénile et inventive, et d'autre part d'un humanisme perdu qui rêve de retrouver sa forme ou l'autre manquant, tout en sachant que cela est impossible. Ainsi, la dramaturgie de Fréchette développe une poésie, bien sûr, sensible et mouvante, mais cette émotion ne va pas jusqu'à l'ébranlement. Comme l'écrit encore Gombrowicz, le savoir, comme l'art, n'est point fait pour tranquilliser notre âme, mais pour l'ébranler, la mettre en état de vibration et de tension. Alors, les pièces de Fréchette ont souvent comme horizon la maturité du monde extérieur, mais celle-ci demeure inaccessible et impossible pour ces personnages qui ne peuvent ni ne veulent sortir de leur immaturité. Les personnages échouent systématiquement face au monde adulte du travail, de l'amour, de la consommation. Ils essaient tant bien que mal d'être adultes, de jouer le jeu social, mais ne peuvent y accéder. Ils demeurent dans un monde immature, porté par un imaginaire marqué d'innocence. Ce monde adulte auquel ils sont opposés est fondé sur des valeurs individualistes de la réussite de soi et de la productivité. Un monde où la réalisation de soi obéit aux lois du marché, que ce soit dans les 7 jours de Simon Labrosse, dans Jean et Béatrice ou dans les 4 morts de Marie, Carole Fréchette ne cesse de mettre en scène des personnages jeunes qui échouent à ce jeu social de la réussite qui passe par le jeu de la consommation. Et face à cette impossible maturité, donc, les personnages se retirent du monde, choisissent consciemment la fuite intérieure. Donc, les 4 morts de Marie, sur laquelle je vais m'arrêter plus attentivement, est à cet égard exemplaire de cette matière à l'œuvre dans sa dramaturgie. Dans cette pièce, le personnage de Marie traverse 4 temps de sa vie qui correspondent à chaque fois à une perte, des parents, d'un rêve révolutionnaire, d'un amour ou d'une illusion sur le monde. Ce qui devrait opérer comme une formation vers la maturité est ici mis en échec par l'esprit inventif du personnage de Marie, qui refuse jusqu'au bout de se faire une raison adulte, mais on va voir que ce refus possède une douce charge critique à l'endroit de la collectivité. Marie tient donc à demeurer dans l'invention perpétuellement renouvelée du monde. « Ici, c'est le nouveau monde », dit-elle à son père dans le premier tableau. « Tout est à faire. C'est Mademoiselle Gervais qui le dit. On est chanceux d'être né ici. Tout le monde le dit. » C'est la parole collective, « tout le monde », qui cultive ce mythe de « tout est à faire ». La maîtresse d'école de Marie leur fait lire le récit des origines, celui du voyage des voyages de Christophe Colomb. Elle nourrit les enfants en formation de cette utopie du nouveau monde à rêver, à bâtir, à découvrir, utopie de la plus grande liberté individuelle et collective. Donc les deux premiers tableaux montrent cette foi dans le nouveau monde à bâtir. Mais ce que pointe avec une certaine acuité la pièce de Fréchette, c'est justement comment cette utopie d'une collectivité jeune s'est figée et comment elle lui sert aujourd'hui de masque. Et d'ailleurs, la parole arrive à Marie, masquée de sa doxa, qui se substitue à la vérité. Tout le monde dit qu'on est chanceux d'être né ici, donc si tout le monde le dit, c'est que c'est vrai et que cela ne se questionne pas. Ce que montre la pièce, et ce, surtout à partir du troisième tableau, sur lequel je vais m'arrêter, troisième tableau qui vient défaire les deux précédents, c'est que dans les faits, l'immaturité comme force positive pour s'inventer autrement a cédé la place au plus grand lieu ou Dieu commun de l'Amérique, soit celui de la société marchande, de la pensée économiste libérale et consumériste. La réalité, c'est que le cours de l'utopie de la collectivité neuve qui pouvait se rêver librement a chuté radicalement et que la liberté se résume aujourd'hui à la réalisation de soi dans la machine économique. Je travaille, donc j'existe. On retrouve au troisième tableau de la pièce, Marie a un âge plus mûr, mais qui ne se soumet pas complètement aux signes sociaux de la maturité de son âge. En effet, Marie va jouer le jeu de l'adulte sans y adhérer vraiment. Elle reçoit donc chez elle quelques amis, son chez-soi étant constitué d'un vieux camion avec une rallonge en bois située dans un terrain vague, espace plutôt éloquent sur le plan symbolique. C'est un espace rafistolé qui n'a rien de misérable, est-il précisé, mais qui indique son refus de la forme achevée, justement. Elle y a invité des personnes qu'elle ne connaît pas, mais qu'elle a croisées sur son chemin, Pierre-Jean qui gagne sa vie en racontant des récits de voyage, Sylvette qui travaille dans la détection de mensonges, et Louis qui est dans l'alimentation et qui espère ainsi maintenant changer les gens de l'intérieur. Ce tableau met en place une sorte de rituel où les personnages vont jouer aux adultes adaptés à la société fondée sur ces valeurs individualistes de la réussite. En fait, toute la scène montre le personnage de Marie qui simule l'être adulte et mûr, qui fait comme si, qui récite et joue le rôle de la maturité mais sans jamais en épouser la forme profonde, protégeant son univers poétique et inadapté à cette société-là.
Alors, je vous lis juste un petit passage qui illustre cet aspect. C'est donc à la fête qu'elle organise le petit dialogue qui s'amorce entre un de ses invités, donc Pierre-Jean et Marie. Pierre-Jean, qu'est-ce que tu fais? Marie, tu veux dire dans la vie? Rien. Je veux dire rien d'important. Enfin, je fais des choses, mais je suis rien. C'est pas ça. Je suis quelque chose, je veux dire je suis quelqu'un, mais je fais rien. Enfin, pas grand-chose. On dit toujours ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est une question difficile. Ces derniers temps, j'ai beaucoup dormi. Je veux dire, pas seulement la nuit, le jour aussi. Pierre-Jean, à moi aussi, je dors beaucoup actuellement. Marie, non, mais moi, c'est différent, c'est professionnel. Pierre-Jean, professionnel? Marie, oui, le sommeil, c'est mon travail. Je dors professionnellement. C'est pour une expérience scientifique. Tous les matins à l'université, dans un laboratoire tout blanc, on me met des électrodes ici et ici, puis je dors. C'est très, très intéressant. Je suis bien payée. Une carrière dans les sciences, c'est bien. J'adore mon travail. C'est bien ça qu'il faut dire? Pierre-Jean, si tu veux, tu peux aussi ajouter, j'ai vraiment l'impression de me réaliser. Alors, Marie récite le rôle stéréotypé de la réalisation de soi, sans être toujours certaine d'avoir la bonne formule, c'est ça qu'il faut dire? Est-ce que c'est bien ça qu'il faut dire? Elle se demande. Ou la bonne forme? Je fais des choses, mais je suis rien. Je suis quelque chose, non quelqu'un. Embrouillant la norme, donc, pragmatique du « je fais quelque chose, donc je suis quelqu'un ». Ainsi, Marie, comme l'écrit Stéphanie Notting, non seulement est en marge de l'histoire, mais elle est aussi étrangère au jeu de l'économie. Marie est inapte à fonctionner dans un système de productivité intense, un des principaux moteurs de la modernité. Mais tout en essayant de jouer ce rôle ou d'endosser ce masque adulte, qui manifestement ne tient pas, elle transforme par la simple force de sa parole l'ordinaire en exotisme. Les verres de lait sont présentés à ses invités comme un coulis de jus de fruits exotiques, les petits pois en boîte comme des petits œufs de poissons tropicaux et les biscuits au chocolat comme des nids d'oiseaux tropicaux. L'ordinaire est transformé, comme dans les jeux d'enfants, en extraordinaire qui fait rêver, comme les voyages de Christophe Colomb l'ont fait rêver. Marie tente ainsi de mettre en échec un réel vidé de toute poésie. Donc, je vous lis un autre petit extrait, très bref. Alors, c'est Marie qui s'approche de Pierre, elle lui donne un biscuit au chocolat. Marie, tiens, mange un petit nid, tu vas voir, c'est exotique. Pierre-Jean, ça, Marie, c'est un biscuit au chocolat. Et les œufs, c'était des petits pois. Marie, pourquoi tu dis ça? Pierre-Jean, parce que c'est la vérité. Marie, la vérité, c'est aussi qu'on vieillit, qu'on est triste, qu'on ne sait plus qui on est, alors moi je dis, mange ton petit nid et fais attention de ne pas t'étouffer avec les plumes. On retrouve ici donc la marque de l'immaturité qui préfère la poésie de la régression infantile, le rêve à la plate et trop sérieuse réalité. En fait, Marie joue un rôle paradoxal qui consiste à jouer avec les masques. Elle s'essaie à emprunter d'abord le masque social de l'adulte qui a réussi, mais c'est une réussite de toute façon dérisoire qui consiste à plaquer un langage social codé sur un métier qui... Ça va? D'accord. Alors, elle s'essaie donc, voilà, emprunter le masque social. Est-ce qu'il passe le fond de ménage? D'accord. Mais ça, donc ça va, vous m'entendez? Je peux continuer? Bon.
Marie, le fond d'aspirateur.
Oui, c'est ça. Alors, elle s'essaie emprunter, je sais qu'elle jouait avec, elle joue avec les masques, elle s'essaie emprunter d'abord le masque social de l'adulte qui a réussi, mais c'est une réussite de toute façon dérisoire qui consiste à plaquer un langage social codé sur un métier qui n'en est pas un, qui consiste dans les faits à dormir. Puis elle masque une réalité trop ordinaire, la nourriture qu'elle sert, en l'enrobant d'exotisme, comme pour pallier à l'aberrance de ce qui n'a pas eu lieu, faire de ce nouveau monde un espace de rêve et de différence. Une différence qui s'est laissée absorber par la marchandisation des rêves, mais que ce soit par le masque social ou par celui d'un réel fantasmé, le personnage de Marie montre, désigne et nomme l'artifice à l'œuvre dans l'être et dans la collectivité, artifice de l'adulte comme de l'imaginaire, de la société et de son utopie, de l'individu et de son rêve. Ce qui n'est pas sans rejoindre la pensée de Gombrowicz lorsqu'il écrit, et je le cite, « L'homme est dans son essence même inauthentique puisqu'il n'est jamais lui-même, rien qu'une forme qui naît entre les hommes, son moi, lui est donc attribué dans la sphère de l'interhumain. Il ne s'agit donc point de conseiller à l'homme d'enlever son masque quand derrière ce masque il n'a pas de visage. Ce qu'on peut lui demander, c'est de prendre conscience de l'artifice de son état et de le confesser. Si je suis condamné à l'artifice, toute ma sincérité consistera à confesser que je n'ai justement pas accès à moi-même. Je ne peux sauver ma personnalité de la catastrophe que par ma volonté d'être authentique face à cette inauthenticité fondamentale. » Donc, les pièces de Fréchette mettent toujours en scène justement des rituels de la vie comme de la vie amoureuse, la vie sociale comme amoureuse, de façon à pointer, à montrer les artifices qui les constituent. Le rôle que joue Marie vise à la fois à voiler et à dévoiler. Elle voile parce qu'il n'y a rien à voir ni à montrer de soi et du réel. Il s'agit toujours de l'inventer, de le fantasmer, mais elle dévoile en même temps ce qui prétend se montrer comme vrai, ce qui prend trop au sérieux son masque, alors que c'est faux et artificiel, soit ici la vanité de l'individualisme sur lequel se fonde la société. Et entre deux masques, elle choisit le rêve de l'enfance et donc l'immaturité qui permet au moins de s'échapper de soi d'abord et de ce système de productivité auquel a cédé une collectivité qui s'imaginait autre. Et le texte, en fait, rapidement pousse plus loin et amène en fait une sorte de geste ou d'irrévérence plus juvénile lorsque Marie fait jouer une cassette audio qui est supposée créer une ambiance festive pour mettre de l'ambiance dans son party. Et en fait, cette cassette, elle fait entendre les règles d'un jeu de société très en vogue, dit-on, à New York, à Los Angeles, et qui se nomme le New Vomiting. Ce jeu collectif consiste à se mettre en rond autour d'une cuve de métal. La cuve doit être très design, en métal, très design, et à vomir tous ensemble en chœur dans cette cuve de métal. Et là, de façon peut-être à régurgiter sa critique ou son écœurement, justement, du monde. Alors, le dernier élément dont je voudrais parler concernant cette pièce, c'est de la forme du conte, qui traverse vraiment toute cette pièce, mais je dirais toutes les pièces de toute façon de Fréchette, qui témoignent dans cette forme du conte, témoigne d'un désir de retrouver le sens de l'imaginaire, mais c'est un imaginaire qui est ici impossible et même empêché. Donc, depuis le début de la pièce, le monde s'ouvre à Marie, constamment par la voix du conte. Ce sont des histoires, bon, un peu tristes, que lui raconte sa mère, les histoires qu'elle écoute concernant les voyages de Christophe Colomb. Et en fait, tout dans la pièce passe par la fabulation que reproduit ensuite Marie en s'imaginant à son tour romancière qui voudrait écrire son expérience du monde, aller jusqu'à la Terre de Feu, au bout de l'Amérique. La matière du conte, écrit Benjamin, donc dans son texte, le narrateur qui a été retraduit sous le titre du Le Conteur, est emprunté, dit-il, à l'expérience du conteur qui a vu du pays et qui a quelque chose à raconter. Et ce qu'il raconte, poursuit-il, à son tour devient expérience en ceux, donc en ceux qui écoutent son histoire. Le conte vise moins à répondre à une question qu'à proposer une manière de poursuivre une histoire en train de se dérouler. Par la transmission des histoires, il met en place une dynamique expérientielle qui passe par la parole partagée entre le conteur et la collectivité des auditeurs. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il en est, toujours dans ce troisième tableau, des quatre morts de Marie, alors que Marie invite un de ses invités, Pierre-Jean, à faire son récit aux autres. Donc, il s'agit d'un conte exotique, de celui qui a voyagé, qui a vu du monde, et que Marie a acheté pour venir égayer sa soirée. Donc, cette histoire qui va être racontée, en fait, n'a plus de rêve à offrir, et elle se présente encore moins comme une expérience à partager, ce qui est le propre du conte. Donc, Pierre-Jean, en fait, raconte un voyage qu'il a fait, dit-il, dans une ville très éloignée, dont il ne peut prononcer le nom parce qu'il y a 3 W et 2 Y dedans. Et il raconte son histoire. Il arrive dans un village minuscule. Personne ne parle français, anglais ou une langue qu'il pourrait comprendre. Et un homme vient vers lui pour l'inviter à le suivre. Donc, je vais vous lire la suite du petit conte raconté par Pierre-Jean. Il dit « Cet homme, il essayait désespérément de me dire quelque chose. Il parlait vite, il riait, il pointait du doigt, il regardait sous la table, sous les chaises, puis il faisait un grand geste circulaire comme ça. Moi, je disais « Maison, montagne, monde entier, quoi? Je comprends pas, tabarnak. » À un moment donné, il m'a pris la main. Par la main, il m'a entraîné. On est sorti, on a pris un chemin de montagne. On a marché toute la nuit. De temps en temps, je m'arrêtais, je disais « Non, mais où est-ce qu'on va? Où? Where? Oh, donde? » Il riait, puis il me tirait encore plus fort. Au petit matin, on est finalement arrivé dans un autre village, aussi petit que le premier, mais encore plus perdu. Il m'a laissé sur place, il est parti en faisant des signes. Je comprenais de moins en moins. Les habitants du village ont commencé à arriver. Ils me regardaient comme un zèbre dans une cage. Puis, il est revenu. Il y avait quelqu'un avec lui, un vieil homme tout plissé, un grand sourire, pas une seule dent. Mon ami s'est mis à parler à toute vitesse. Plus il parlait, plus il gesticulait, plus tout le monde riait. Finalement, le vieux s'est approché de moi. « He wants to tell you something. » Un traducteur, sacrement. On avait marché toute la nuit pour trouver un traducteur. He says, you come from far, very far. Why are you here? What are you looking for? There is nothing here. Nothing. Look. Il m'a pris par le bras, il m'a fait faire le tour de la place. Il a ouvert les portes de toutes les maisons, des petites maisons, de pauvres, presque vides. Look, look. Nothing. Mon ami nous suivait, il répétait nothing, nothing. Ils ont pointé la montagne, just earth and rock. Nothing, look. Tout le monde riait de plus en plus. Il a ouvert ses mains pour me montrer ses paumes. Il a détaché sa chemise pour me montrer sa poitrine toute flasque. Puis finalement, il a ouvert sa bouche, un grand trou noir au milieu d'un visage ridé. Il a pris ma tête à deux mains, il a collé mon œil sur sa bouche noire. Look deep, very deep. What you see? Nothing, nothing. Tout le monde autour s'est mis à l'imiter, ils ouvraient la bouche, ils répétaient nothing, nothing. C'est tout. C'est ainsi que Pierre-Jean finit son récit. Louis, ayant écouté ce récit, demande à Pierre-Jean, qu'est-ce que tu as répondu au vieux? Pierre-Jean, j'ai dit, tell him that where I come from, il n'y a rien non plus. Alors, d'où je viens, il n'y a rien non plus, a répondu Pierre-Jean. Quelle expérience est ainsi transmise par ce bref récit à la petite collectivité réunie là, sinon celle du rien à voir et du vide? Et comment poursuivre cette histoire à partir du moment où il n'y a plus rien de remarquable à raconter? Pour reprendre les termes encore de Benjamin qui dit « Nous sommes pauvres en histoire remarquable », le monde ainsi raconté, l'ici et l'ailleurs, s'est vidé de son aura, il ne se vit plus tout comme le sujet d'ailleurs qui ouvre la bouche pour montrer une béance creuse, noire, que sur le mode de la perte, Il s'est refermé sur lui-même, il n'offre qu'une béance, donc noir et sans fond. Mais la pièce ici laisse à penser que si nous sommes pauvres en histoire remarquable, c'est peut-être que la matière dont sont faites les histoires, l'expérience vitale vécue est de plus en plus dévorée, évidée par les progrès de l'individu qui perd en expérience du monde à mesure qu'il se réalise dans la société de l'information et de consommation généralisée. Mais en fait, il y a bien quelque chose de remarquable dans ce conte rapporté par Pierre-Jean, et c'est le rire des personnages. Ce creux, ce nothing, ce rien à voir, provoque l'hilarité collective des habitants du petit village, alors qu'elle semble accabler son narrateur et ses auditeurs. Là réside la grande farce de l'histoire. Le conteur, endeuillé dans une attitude trop sérieuse, n'arrive plus à s'amuser du réel, de son vide dérisoire qu'il ne cesse de pleurer comme s'il y avait déjà eu un autre fond qu'imaginaire, comme si le nouveau monde, comme l'ailleurs et son exotisme, avait déjà été autre chose qu'une utopie, une invention à raconter pour que se poursuive l'histoire fabulée. C'est à cet esprit de sérieux, en fait, que tente d'échapper le personnage de Marie en demeurant dans une position souverainement immature, en voilant le tragique du rien de son invention poétique. Si derrière le masque, il n'y a effectivement rien, comme le suggère Gombrowicz, s'il n'y a pas de visage, alors le propre du conte et du poétique est d'inventer un visage au monde pour le rendre habitable. Alors, est-ce que j'ai le temps de terminer sur 5 minutes sur... Oui? Je termine rapidement sur le collier d'Hélène. Donc, l'univers de Carole Fréchette, je pense que vous comprenez, travaille à cela, à inventer, je dirais, un visage au monde. Et ce, même lorsqu'il s'agit de se confronter au monde en guerre, aux politiques en somme, ce qui ne lui arrive que très rarement. Dans un texte donc plus récent, intitulé « Le collier d'Hélène », l'auteur met en scène un personnage, Hélène, qui va confronter son regard nord-américain, qui n'a jamais vécu la guerre, à celui des habitants d'une ville du Liban, Beyrouth, même si la ville n'est pas nommée, ville qui est un immense chantier en reconstruction. La confrontation des regards, tout comme celle des langues, restera dans un rapport d'étrangeté et d'incompréhension mutuelle. La pièce est organisée autour du motif de la perte, mais de deux pertes qui sont sans commune mesure, la perte d'un collier de perles de plastique pour Hélène, collier qu'elle cherche dans les décombres de la ville, et la perte d'une maison ou d'un fils pour les Libanais rencontrés. À la vanité d'un collier de plastique évanescent, comme elle le dit, s'oppose la lourdeur de la pierre, des chantiers et du deuil de ses habitants. Le regard d'Hélène posé sur ce monde dévasté par la guerre ne peut, à l'instar de ce collier perdu, que paraître léger, trop léger et innocent. Le contremaître du chantier lui dit « Vous êtes venu pleurer sur le passé, sur les maisons démolies et les maisons rebâties. Rentrez chez vous, dans votre maison qui est encore debout, dans votre pays qui a tous ses morceaux. » Un homme croisé dans la rue à qui elle demande s'il n'aurait pas vu son collier lui répond « Moi, j'ai perdu le carré où je peux poser mes pieds et dire « Ceci est à moi ». Vous ne l'auriez pas trouvé le soir en vous déchaussant le carré qui était sous mes pieds. Et lorsque le même homme lui demande pourquoi elle tient tant son collier, elle lui répond « Un homme que j'aimais beaucoup me l'a offert en cadeau, puis il est mort tragiquement dans mes bras. C'est tout ce qui me reste de lui ». Face au désespoir tragique d'être marqué par la guerre, le personnage masque la pauvreté de son expérience en s'inventant un tragique existentiel qui serait marqué lui aussi par la mort. Donc le personnage est tenu à la porte de l'histoire dont il ne fait pas partie parce qu'il vient d'un monde nouveau, pauvre en expérience justement. Comment alors partager celle des autres sans tomber dans un voyeurisme obscène? Comment la raconter, en rendre compte alors que c'est une réalité qui ne fait pas partie de l'expérience nord-américaine? Si dans les quatre morts de Marie, l'immaturité du personnage opérait quand même une critique acerbe de l'individualisme tout-puissant et de la collectivité, ici, l'immaturité critique s'est transformée en innocence, ce qui n'est pas la même chose. La perte du collier chez le personnage correspond à la perte de l'innocence de son regard existentiel face à la gravité de l'expérience de la guerre. Et cette innocence, si elle est chargée de sentiments humains, si elle témoigne de l'impossibilité de traverser la frontière qui nous sépare les uns des autres, comme le dit le personnage, ne vient rien déranger ou questionner. Car la pièce ne va pas jusqu'à mettre en question cette innocence perdue, qui n'est peut-être qu'un autre des multiples leurres de l'humain. Cette innocence avec laquelle le personnage aborde un monde marqué par la destruction et la mort montre la difficulté à sortir d'un regard pseudo-naïf et spontané sur le monde. Je dis pseudo car je pense qu'il s'agit d'une posture un peu douillette qui permet au personnage et par extension à l'auteur qu'il construit de ne pas se confronter à une certaine complexité existentielle et même à l'horreur fondamentale de l'existence dont la guerre est une des expressions violentes. Au lieu de se servir de la position de marginalisé de l'histoire pour casser cette fausse innocence, et travailler dans la conscience de la complexité du mouvement de fond de la vie qui est à la fois trouble, intense comme une basse continue, beau et laid, le personnage réitère ce qui m'apparaît comme un cliché de l'interhumain, ce rêve de colmater la brèche par l'être ensemble, par la communion universelle avec l'autre. Donc, j'allais lire un extrait, mais je le passe. Donc, le personnage d'Hélène souligne sa déception, le rêve déçu, au lieu de creuser, de fouiller cet espacement entre les êtres, les nations, les histoires. Alors que ce que représente avec justesse, à mon sens, le début de sa pièce « Le collier d'Hélène », c'est-à-dire elle représente là au début l'écart difficile à combler entre les hommes et leur expérience et l'incompréhension radicale qui marque souvent leur rapport, la fin, je trouve, vient renouer, remettre de la clôture dans ce qui avait été ouvert pourtant avec une certaine lucidité et du tranchant. Donc la fin vient remettre dans le récit dramatique dans une bonne forme, mature, adulte, je dirais, c'est-à-dire saturée d'humanité, car à la fin, elle fait communiquer et même communier Hélène et son chauffeur de taxi Nabil, dont elle ne comprenait pas un traître mot depuis le début de l'histoire, lui parlant arabe, elle français, et soudain est projeté donc ce fantasme de la compréhension fraternelle entre les êtres, Hélène entendant le sens de ses paroles. Donc je termine en disant simplement que la dramaturgie de Carole Fréchette oscille entre deux pôles, entre une forme vraiment immature au sens de Gombrowicz, à la fois poétique, critique, et une autre qui cède parfois à une innocence naïve, mais qui manque parfois de cette charge d'énergie qui libère un je ne sais quoi d'audacieux et de déstabilisant. Dans Les quatre morts de Marie, le vide existentiel et le manque à être du sujet est assumé de façon à devenir une source vive qui permet constamment de réinventer le visage du monde et d'en montrer aussi en même temps la laideur et la défiguration. Bref, sa face cachée, obscure, tout autant que lumineuse, tout cela en même temps. Voilà, je vous remercie.
Donc, merci Marie-Christine pour cette réévaluation de l'immaturité. Je vais tout de suite laisser la parole, on va faire comme hier, c'est-à-dire que on va écouter les deux communications et on débattra ensuite. Laisser la parole à Sophie Lucet, qui est maître de conférence à l'Université de Caen en art du spectacle, qui travaille principalement sur les écritures contemporaines, et qui va nous parler de Sébastien Harrison, Un théâtre de l'ambiguïté.
Merci beaucoup. Donc, avant de commencer ma communication, je voudrais dire que j'ai accepté d'aller à la découverte du théâtre de Sébastien Harrison, que je ne connaissais pas il y a un mois, et ceci à la demande d'Olivier Neveu, que je remercie. Et donc, l'étude que vous allez entendre relate un peu les cheminements du lecteur-découvreur, plutôt que des théories définitives, pour appréhender une œuvre complexe, hein, sous des dehors vifs et brillants. J'ai intitulé cette communication « Sébastien Harrison, un théâtre de l'ambiguïté » et je parlerai plus précisément aujourd'hui d'un texte qui s'intitule « La traite des peaux ». Ça commence comme ça. Que se passerait-il si l'on plaçait un castor en Floride? Ainsi pourrait-on résumer la fable de la traite des peaux, pièce qui connut plusieurs variantes depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui et qui n'a pas encore été montée à ce jour. S'inscrivant dans la veine de Titanica, la robe des grands combats, le présent drame se déroule en effet, je cite, quelque part dans le sud de la Floride, entre les Everglades et une villa, une gare et un hydroport, mais aussi dans les fantasmes de tous ceux qui y sont impliqués, ce qui nous permet de convoquer au passage quelques anachronismes et autres fantaisies, dont un castor canadien aux longues dents. D'emblée, l'auteur nous propose une sortie du réel, en rapprochant des termes apparemment inconciliables, un castor en Floride, un espace réel et rêvé à la fois, quelques anachronismes pour couronner le tout, comme s'il fallait ainsi se départir de nos codes de perception habituels pour entrer dans la logique du drame. Et si l'on accordait, pour une fois, du crédit à nos fantasmes? Et si l'on s'emparait de la scène pour transformer les règles habituelles du monde? Premier indice dans le puzzle à recomposer, le titre de la pièce. S'il s'agit de la traite des peaux, faut-il en déduire que le castor, animal emblématique du Québec dont on trouve l'effigie sur les pièces de monnaie, ferait l'objet d'un commerce? Hypothèse inquiétée par le statut problématique de l'animal dans le texte. Certains personnages le voient, témoignent de sa réalité, d'autres en contestent l'existence même. Comment alors faire commerce de la peau d'un animal, sans doute imaginaire? Est-ce à dire que les fantasmes seraient désormais à vendre? Dans l'entretien qu'il accorde à Agnès Trolley en juin 2004, Sébastien Harrison évoque ce projet d'écriture auquel il donne alors un titre différent, « Les chairs de la Nouvelle Alliance ». Autre titre, autre énigme provisoirement résolue selon l'équation poétique suivante, s'il s'agit de dogmes, dans quel espace spirituel ou fantasmatique évoluons-nous désormais? Quel nouveau pacte d'amour les personnages vont-ils désormais sceller? Comment en seront-ils physiquement transformés dans leur chair? Dans tous les cas, l'auteur semble nous inviter par ce jeu des titres à une vaste réflexion sur les mythologies contemporaines. Et d'abord sur les places du rêve et de la réalité dans nos sociétés. À peine esquissé, l'espace réel de la Floride est contesté par l'imprécision des notations didascaliques. Quelque part dans le sud de la Floride, entre une gare et un hydroport, mais aussi par l'autre logique, celle du fantasme. Le drame se tiendra surtout dans l'espace psychique des personnages, ce qui générera un certain nombre de conflits, comme vous le verrez. D'autant que Sébastien Harrison a voulu choisir des lieux qu'il n'a pas visités pour écrire ses pièces, ceci afin de les mieux fabriquer. À l'occasion d'une discussion hier après-midi, Sébastien me disait qu'il avait tiré toutes les informations concernant la Floride dans un guide de voyage et qu'il n'a jamais visité ces paysages. Espace réel, espace fantasmé, telle est sans doute la question qui traverse l'œuvre et ouvre à la compréhension de sa structure globale. Suarez, le serviteur d'une villa, retrace l'histoire de la Floride depuis la préhistoire jusqu'à la phase post-historique de son évolution, au cours de 8 interludes sous la forme de monologues, pendant que 5 personnages se démènent dans un drame aux allures de sitcom, le spectateur assistant à 7 épisodes d'une saga familiale. Là encore, le frottement entre deux textures hétérogènes, le monologue à teneur historique, les dialogues théâtraux, provoque un débat sur la valeur des apparences. D'où parle-t-on le mieux du monde ? Est-ce dans le discours historique, roman vrai, proposant une représentation communément admise du passé, ou bien dans l'apparente déconstruction du présent, sorte de grand désordre où chacun peine à faire entendre sa voix? Plus encore, quel lien établir entre le discours officiel de l'histoire et la vie quotidienne des êtres d'aujourd'hui? Trois angles de vue pour aborder cette écriture aux accents baroques. Cette pièce peut d'abord se lire comme un drame des interprétations. Chaque personnage donnant du monde sa lecture singulière. Nous verrons ensuite que la notion d'action dramatique est tout entière placée sous l'égide de la quête. Quête obstinée du vase du sens, pour citer Suarez. Nous évoquerons enfin la vision de l'histoire contenue dans cette pièce, histoire inquiétée par le règne des images et obsédée par l'annonce de sa fin inéluctable. Donc quelques mots sur le drame des interprétations. Il y a d'abord Suarez, gentilhomme à tout faire cubain, portant des gants de jardinage, seul en scène devant la porte close de la villa, pour raconter l'origine mythique de la Floride, avant de laisser place au drame. Entre Tony, dame élégante de 70 ans, la patronne des lieux sans doute. Sous son influence, Suarez retrouve son rôle et langage de domestique, je cite, « dépourvu de toute opinion sur la marche du monde ». Fragment de réalité vraisemblable, aussitôt contesté par une série d'intrusions dans l'ordre familial. Un homme, on ne peut plus pornostar, fait irruption avec une valise dans le salon. C'est Lonely, le gendre de Tony, qui vient fleurir les tombes de sa femme et de son fils. Avec lui, un castor pénètre dans la maison. Tout d'abord dans les cauchemars de Lonely, puis dans la villa, dont il ronge, semble-t-il, le mobilier. Du castor, on ne verra rien, pas plus que de Lauren, amie de Tony et femme du colonel Hurricane, qui intervient exclusivement par le biais du téléphone pour colporter la voix de la rumeur, les commérages sur le retour de Lonely, par exemple. Ce sont là deux absents, Lauren, le castor, qui influent sur le drame en faisant peut-être la jonction avec l'ailleurs ou le monde des morts. Arrive ensuite Zoé, jeune voisine aux airs de garçon manqué, projetée dans l'histoire par une panne électrique. Elle ne peut plus réviser ses examens de médecine, cherche le fusible défectueux et se trouve ainsi connectée à la sphère de la villa. C'est enfin le colonel Hurricane qui entre en scène, comme appelé par la charge énergétique des mots utilisés par Tony. Tony. Ah oui, ma chère Zoé, ce soir tu es invitée. Ici, un grand dîner. Il y a trop longtemps que nous nageons dans le pessimisme, à guetter les ouragans, à anticiper la fin de la démocratie, la mort des principes qui ont fait ce pays si grand, si beau. Je te présenterai à mon ami le colonel Hurricane, le fameux chasseur d'ouragans. Au hasard des jours, des infortunes ou des maux, la constellation des personnages se lie pour une durée incertaine. Ses relations aléatoires fixant chacun dans un rôle dominant. À Hurricane revient le discours météorologique, discours rassembleur sur le chaud et le froid qui soufflent sur les continents et les êtres. À Zoé, étudiante en neurochirurgie, le discours médical, autre façon, je cite, de plonger en plein cœur du mystère du monde, selon ses dires. À Suarez, le propos historique, souvent ponctué par un élan mystique de facture très personnelle. À Tony, de longues considérations à propos de l'action du temps sur les corps. À Lonely, l'évocation de la mort. Tous proposent une lecture du monde sans espoir de partage, la courbe de leur destin étant préétablie. Il suffit en effet de s'intéresser à la nomination des protagonistes pour imaginer leur parcours dans le drame. Zoé, comme la vie en grec, précise Lonely dès qu'il croise la jeune fille. Lonely comme la pierre précieuse, répond Zoé, mais tout de même solitaire. Tous ont un nom concret et abstrait à la fois, sorte de principe vital dont la pièce donnera progressivement les clés. Hurricane annonce l'ouragan qui balayera finalement la Floride. Tony, c'est la fauve, privée de sa descendance rousse depuis la mort de sa fille et de son petit-fils, comme la Vierge et l'enfant roux emportés dans l'ouragan au-dessus du golfe, selon le vieux refrain cubain placé en exergue du texte. Si les noms sonnent ainsi comme des pressentiments auxquels les événements dramatiques donneront forme, c'est que les protagonistes semblent des effigies soumise à une logique supérieure et mystérieuse, à un principe organisateur qui excède largement les êtres en présence. On le comprend, depuis longtemps, Sébastien Harrison a rompu avec tout réalisme pour saisir la pluralité des lectures possibles du monde. Est-ce à dire que l'évolution des personnages serait désormais impossible, que tous ressasseront sans espoir de progrès? En fait, chacun n'a d'autre choix que de muter pour évoluer, car il n'est pas d'intrigue sans métamorphose physique des êtres. Deux exemples pour illustrer ce processus avec Tony et Lonely. Lorsque Lonely fait brusquement irruption chez Tony, celle-ci semble prise par l'usure du temps. Je cite, « Suarez sort en portant Lonely. Un temps. » Tony se retourne vers la glace. Elle examine son visage, ses rides, tire un peu sa peau pour les estomper, puis enfouit son visage entier dans ses deux mains tachetées par l'âge. Scène de vanité face au miroir. Considération hâtive sur le caractère inéluctable du vieillissement. Mais rassurez-vous, dès le second épisode, Tony rajeunit. Elle a trouvé un bon docteur français pour la chirurgie esthétique. Au troisième épisode, elle est si blonde que le colonel Hurricane, séduit, la demande en mariage. Au sixième, Tony est devenue la sœur jumelle de Zoé. Au septième, un petit garçon en habit de jardinier d'un roux flamboyant vient nommer Tony Junior, du nom de l'enfant disparu dans l'accident. Lonely, planté comme un chêne qui porterait une perruque blonde, selon les dires de Suarez lors du premier épisode, apprend bientôt à l'assistance médusée que s'il est banquier, c'est pour travailler dans une banque du sperme. Entreprise à haut risque puisqu'il a bu par mégarde une pleine éprouvette de sperme contaminé. Lonely aurait alors contracté un sida nerveux, selon les dires de Lorraine, qui tire ses sources de la lecture assidue des magazines. On retrouve ensuite Lonely face au miroir, ulcéré par la progression de sa maladie, puis sec comme une vieille dame acariâtre, jusqu'à se muer en Lonely mère. Deux itinéraires, deux métamorphoses physiques spectaculaires, seule progression dramatique véritable. Mais il y a les transformations consenties, celles de Tony qui s'adonne à la chirurgie esthétique, et les mutations guettées dans l'angoisse, celles occasionnées par la maladie pour Lonely. Dans tous les cas, l'on reste frappé de la porosité des corps et des identités. L'un passe dans le corps de l'autre et se transforme à vue, redevient jeune ou vieillit prématurément, change de sexe et de langage. Sorte de fantaisie baroque, de carnaval mental où les corps se transforment et se recomposent comme les identités, ceci allant jusqu'à l'échange des personnalités. Tony devient petit garçon et Lonely vieille mère, parfois rebutante. Théâtre dans le théâtre, où les personnages essaient leur rôle à vue et s'identifient provisoirement à l'un d'entre eux. On pense bien entendu au body art, déjà évoqué dans Titanica, la robe des grands combats. Plus encore, ce motif de l'inversion des personnages, dont Sébastien Harrison dit qu'il fut l'élément déclencheur de l'écriture, est une sorte de métaphore pour dire l'efficacité des fantasmes dans les relations humaines. À la fin du texte, on retrouve ces deux êtres, la vieille dame rajeunie, le jeune homme vieilli, devisant sur les pouvoirs de l'amour en ces termes. Lonely mère, ce n'est peut-être que ça l'amour, mon fils. Se laisser modeler, déformer, façonner par le regard de l'autre jusqu'à devenir la forme secrète qui habitait ses songes, le bourreau qu'au premier regard il cherchait. Tony Junior, que ça l'amour? Est-ce à dire que l'on se servirait des autres pour projeter ses fantasmes? Toute la pièce semble en effet une variation sur le thème de la ronde des désirs, chacun faisant de l'autre l'être qu'il pourrait aimer s'il se conformait un instant à son attente. De là sans doute les multiples métamorphoses des personnages qui deviennent l'idéal d'un autre à un moment de leur évolution. Zoé devient par exemple le fantasme de Suarez, alors qu'elle commence à rêver de Lonely, Tony, la femme idéale pour Hurricane, maintenant qu'elle a rajeuni. Je vous lis un petit extrait. Hurricane. En chaque homme, mon ami, dort une femme de rêve, pas faite pour le réel. Je coupe. Tout homme la connaît. Elle est celle des pages de magazine X, ces pages qu'on marque d'un signet virtuel. Tony. Ah ? Hurricane. Celle à qui on demande, parfois, à celle du quotidien, de tenter de ressembler sans pour autant le souhaiter vraiment. Tony. Et pourquoi ne souhaiteriez-vous pas avoir enfin accès à elle ? Hurricane. Parce que chaque homme connaît ses limites. Parce que, l'ignoriez-vous, un homme a plus de couilles dans ses rêves que dans le réel. Éminemment ludique, cette écriture développe toutes les potentialités combinatoires des fantasmes, qui sont autant d'incitations à l'exaltation du plaisir des acteurs. Mais au-delà de ces jeux brillants, s'élabore un discours sur les apparences, sorte de couche, à l'instar de ces tableaux que l'on restaure dans les musées et qui s'avèrent en cacher un autre. Je cite. Zoé. J'ai certains jours cette impression étrange que tout ce que nous connaissons du monde est à lire dans le cerveau humain. Suarez. Le monde et sa splendeur ne peuvent être déposés dans un vase si petit. Zoé. Pourquoi pas ? Nous sommes peut-être au cœur d'un désert, occupés à halluciner tout autour d'une végétation, une civilisation, une idée de progrès. Le monde n'existe peut-être que dans nos cerveaux. Où est donc le vase du sens ? Et comment déchiffrer le grand livre ? Si le monde est un texte, par qui et pour qui est-il écrit ? À ces questions aux accents nietzschéens, Sébastien Harrison semble répondre en faisant de ses personnages des chasseurs de sens. Hurricane le cherche dans les ouragans, Lonely dans la mort de ses proches, Zoé dans l'étude du cerveau, Tony dans la chirurgie esthétique, Suarez dans la prière et l'histoire. Tous interprètent les signes du quotidien en fonction de leur grille de lecture, l'histoire du castor étant à ce sujet emblématique. Dès la deuxième scène, Lonely se dit traqué par cet animal qui, après l'avoir poursuivi depuis le Canada, le regarderait dormir avec ses yeux brillants et ses deux dents effilées. Ce que Tony attribue immédiatement aux effets d'un cauchemar. Le premier épisode se conclut cependant sur une sorte d'évidence matérielle. Le fauteuil sur lequel Zoé est assise s'effondre, Suarez en concluant que sa patte a été mangée, comme l'est le bois, par un rongeur. Preuve s'il en fallait encore de l'efficacité des fantasmes. L'action n'est ici que la conséquence des discours, ce qui confère au langage puissance et dangerosité. Dans le troisième épisode, Lonely donne une autre explication à la présence du castor en révélant peut-être l'origine de ses visions. Lonely, lisant la lettre de son fils, celui qui est mort. Cher papa, ici au Canada, les nuits sont froides et je dors avec le pyjama étoilé que tu m'as offert. L'autre nuit, mon castor en peluche s'est mis à rire en pleine nuit, tellement fort qu'il m'a réveillée. Je l'ai regardé. Ses yeux brillaient méchamment. Il sautillait sur la commode, puis il a bondi sur mon lit. Il riait et disait « Tu ne reverras jamais ton papa, tu ne reverras jamais ton papa ». Je me suis mis à l'abri sous la couette, mais il criait si fort que je l'entendais. Le lendemain, il était au pied de mon lit éventré. J'ai demandé à maman de le mettre aux poubelles. « Dis-moi, papa, que le castor a menti. Dis-moi que tu nous visiteras bientôt. Il y a une autoroute qui vient jusqu'ici. Junior. » Autre fil conducteur du récit, on retrouvera le castor dans les marais d'Everglades, surplombé justement par une autoroute sur pilotis, Alligator Alley, Suarez ayant enfilé le costume d'époque de Sir John Bartram, botaniste anglais du XVIIIe siècle. Semblant alors voguer ensemble sur le fleuve des morts, les deux hommes évoquent le castor, présence obsédante pour Lonely, espèce totalement disparue de la Floride depuis la dernière ère glaciaire, selon Bartram. Lors du sixième épisode, Lonely assiste pourtant à la tentative de capture du castor par le FBI, scène filmée par les caméras de CNN. Axiome corroboré par Zoé, qui atteste à son tour de la présence de l'animal au septième épisode, Zoé, j'ai suivi un long sentier de palmiers sur la trace d'un gentil castor qui m'avait souri. Il marchait de façon si malhabile, il m'amuse. Il a même promis de m'inviter à danser lors du prochain bal. J'ai mis une note dans mon carnet. Il va et vient entre le réel et le rêve, rongeant ici la patte d'un secrétaire, tantôt des circuits électriques, bientôt les neurotransmetteurs qui vont de l'image au signifiant. À rebours, l'existence du castor semble devoir expliquer tous les incidents survenus dans le quotidien depuis le début du drame. Les meubles rongés, la panne électrique occasionnant la rencontre de Lonely et de Zoé, la lente détérioration du décor et du monde. Le principe de causalité étant désormais à chercher du côté du fantasme, sorte de suture entre le réel et l'imaginaire. C'est que là, dans ce grand théâtre, les rêves s'incarnent et transforment les êtres. De ce fait, le castor oblige les protagonistes à quitter leurs fausses évidences et leurs apparences mensongères pour se révéler à eux-mêmes. On se souvient d'ailleurs, dans la communication de Sébastien Harrison hier, de ces mots optimistes sur le fantasme de la révélation. Là, les personnages accouchent de leur double, des êtres qui les ont peut-être trop longtemps habités, et se mettent désormais à l'écoute des signes envoyés par la nature, qu'il s'agisse d'un animal ou d'un ouragan, comme s'il fallait retourner au drame cosmique des temps shakespeariens. Car après le temps des hommes, reviendra le règne silencieux de la nature. Zoé, je me suis enfermée dans ma villa, dans mes livres, dans mes croyances. Désormais, je refuse d'être cloîtrée. Vous ne m'enfermerez nulle part. Je suivrai le vent. Lui seul mène à la connaissance. Elle se sauve. Coup de tonnerre, bourrasque. Un ouragan vient balayer la Floride. Ce monde surréel qui n'était plus qu'image. Ce monde détraqué, digne d'un film de série B. Ce monde délirant et cruel qui, je cite, en était à ses derniers jours, ses dernières pages. Ce temps de la Floride décadente. Suarez. Comment aller plus bas, se corrompre davantage? S'avancer plus loin dans la décadence, dites-moi. La folie des années 60 a soufflé ici plus qu'ailleurs, semant partout le mal, la passion pour la facilité et le superficiel. Sur les traces de Disney, l'État entier s'est transformé en parc d'attractions, se peuplant de souris géantes, de biches pleureuses, de princes musculeux, de princesses en silicone. On dit que dans quelques jours, nos concitoyens, ceux qui sont libres, iront aux urnes pour élire un nouveau président. Sommes-nous des hommes? Sommes-nous des bêtes? Défilant entre les allées des parcs de mobilhomes, que déduirait un alien? Le surréel était à cette époque de l'histoire devenu la seule réalité du monde. La nature, le décor immense d'un scénario vécu collectivement. L'image avait perdu son sens en se coupant de ses référents, comme si les fils tissés entre la vision et la mémoire s'étaient mystérieusement court-circuités. Que pouvait-on faire dans ce monde d'images de ses rêves personnels? Était-il encore possible de se réapproprier un peu de l'histoire collective en sauvegardant ses propres fantasmes? À ces questions, Suarez répond en évoquant la seule issue possible. Suarez. Il faudrait refaire ce pays pièce par pièce. État par état, le fondre, le refaire, le refaçonner. Il faudrait que la foudre, les flammes, le vent et les cieux déchaînés viennent un jour laver hommes et femmes. Un coup de tonnerre d'une violence inouïe vient ponctuer cette déclaration prophétique en annonçant l'extinction définitive de l'espèce humaine. Il semble, mon amour, que la lumière n'ait plus rien à tirer de nos visages. Conclut Tony. Fallait-il redire toute l'histoire de la Floride pour assister à sa disparition? Redevenue vierge, après avoir porté toutes les légendes, cette terre d'Amérique fait peau neuve. Ne reste que Suarez après l'ouragan, racontant la fin de l'histoire comme un mythe eschatologique, car l'essentiel n'est pas le fait de la fin, mais la certitude d'un nouveau commencement. La conscience de ce qui a eu lieu à l'origine, procurant peut-être la science de ce qui se passera demain. En conclusion, il semblerait que le théâtre de Sébastien Harrison s'attache à construire un théâtre de l'ambiguïté. Dire que l'existence est ambiguë, c'est postuler que le sens n'en est jamais fixé. L'ambigu n'étant pas l'absurde, mais le drame de la pluralité des interprétations. En ce sens, l'on pourrait placer le texte tout entier sous l'égide de Nietzsche, je cite, « Il n'y a pas de fait en soi, mais toujours il faut commencer par introduire un sens pour qu'il puisse y avoir un fait. Faudrait-il alors se défaire des apparences trompeuses, le monde n'étant plus qu'un immense parc d'attractions, pour accéder de nouveau à la connaissance ? Telles sont les questions qui jaillissent à la lecture de la traite des peaux, sous l'influence du castor, sans doute. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Sophie. Je vous rappelle juste qu'il y a une lecture cet après-midi à 14h de la traite des peaux, et demain à 11h30 des 4 morts de Marie de Carole Fréchette, dont a parlé Marie-Christine. On a un peu de retard, donc on va attaquer tout de suite les questions, les discussions, les commentaires, les remarques. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires ou des questions ? Oui, Geneviève.
Et je trouve que c'est intéressant parce qu'en plus c'est un ailleurs qui devient évidemment plus présent que ce que serait donné par la fiction. Et j'aime bien Marie-Christine cette proposition d'une maturité. Effectivement, oui, c'est intéressant. Et donc tu ferais la différence entre les quatre morts de Marie et le collier d'Hélène?
Ben, différence. Parce qu'il y a une différence entre l'immaturité et l'innocence ou la naïveté. L'immaturité n'est pas innocente ni naïve. Elle est critique, quand même. Et oui. Ouais. Et je pense que c'est dommage, parce que le collier d'Hélène y arrive, mais c'est à la fin où ça glisse, je trouve, où elle remet les choses dans une... Elle clôt. Voilà. Et c'est dommage, parce qu'elle avait ouvert autre chose. Et peut-être une parenthèse, il y a eu une mise en scène qui a été donnée à Paris par un metteur en scène libanais. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, je trouve qu'il a radicalisé la proposition du texte en faisant en sorte que, parce que dans le ça fonctionne pas, non? Donc dans le texte, donc tous les dialogues que Marie a avec les personnages libanais sont en français. Donc on a l'impression que ça dialogue. Mais au fond, on peut se demander, est-ce que le dialogue a vraiment eu lieu ou n'est-il pas un dialogue fantasmé de toute façon constamment par le personnage? Et ce que fait ce metteur en scène libanais, c'est que tous les personnages libanais, sur scène, parlaient en arabe, et le texte français était projeté sur les murs, et inversement, lorsque Marie parlait, elle parlait en français, et son texte était projeté en arabe sur les murs. Alors, ça faisait que les personnages en scène dialoguaient, ne dialoguaient pas, chacun dans leur langue. Et là, je trouve que, il me semble qu'il a poussé un peu plus loin la proposition qui était un peu incluse dans le texte, mais que Carole j'avais bien aimé cette lecture qui ramenait plus cette idée d'incompréhension radicale, au fond, qui est à la base, je pense, du texte de Carole Fréchette.
Il y a d'autres questions, d'autres remarques ?
C'est un commentaire sur la communication de Marie-Christine Lesage. Je trouve que ce concept d'immaturité qu'elle a pris chez Gombrowicz est un outil qui devrait être davantage utilisé, poussé pour une bonne partie de la dramaturgie québécoise des 25 dernières années, et de plus, non seulement comme outil d'investigation, mais j'irais vers un côté peut-être plus cruel, ce, appelons immaturité soft, ce qu'elle a décelé chez Carole Fréchette, et voyons à quel point ça pointe et que ça permettra d'identifier avec précision cette sorte de valse hésitation qu'on retrouve non seulement dans la dramaturgie québécoise, mais aussi dans la littérature québécoise, entre un désir de ne pas se conformer aux formes convenues, mais qui souvent s'arrête dès que cette subversion devient inquiétante, destructrice. Et je trouve que vous avez levé un très intéressant lapin.
Je pense que on pourrait l'étendre à la dramaturgie. J'avais d'ailleurs une petite partie là-dessus. Mais aussi, je me demande dans quelle mesure, est-ce qu'il n'y a pas une part à la fois des romanciers et des dramaturges québécois immatures qui seraient pas, il y aurait quelque chose à faire, qui seraient les héritiers de... Je trouve que le grand poète de l'immaturité au Québec, c'est Régent Ducharme. Et voilà, et c'est là-dessus que j'ai développé, et je me dis, dans ses romans et au théâtre, et j'ai l'impression qu'il y a quelques jeunes dramaturges aujourd'hui qui reprennent un peu ce flambeau, et on pourrait parler bon d'Olivier Chouanière. Bon, je pense que Sébastien Harrison en fait partie, qu'il le veuille ou pas. Wajid Mouawad, et quelqu'un dont on n'a pas parlé ici, mais dont le théâtre est passionnant, c'est Éric Charpentier, je trouve, qui lui vraiment défait toutes les formes. Donc l'immaturité aussi, ce qui est intéressant, c'est aussi une forme poétique. C'est-à-dire hier, souvent, ce qui est intéressant d'entendre, c'est à quel point les metteurs en scène montrent Wajid Mouawad ou même Sébastien Harrison, mais ils disent oh, ça déborde partout. Qu'est-ce qu'on fait avec ces formes? Ils en disent trop, il y en a trop, il faut toujours couper. Et ça, c'est une des caractéristiques qu'identifie Gombrowicz, c'est justement une forme qui ne veut pas cadrer, qui ne veut pas rentrer dans le moule. Et c'est ce que tu disais hier, Paul, aussi, de ces écritures qui se refusent à la bonne forme. Tant Wajid Mouawad que d'autres auteurs ne veulent pas que leur texte soit bien dans une économie de temps, de parole. Non, 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 que ça déborde, et ils se débrouilleront, ils s'arrangeront avec nos débordements.
Ajouter un mot. Oui. Moi, je pensais aussi à Régent Ducharme. Je trouve que tu as tout à fait raison de citer. Mais je dirais que l'immaturité chez Régent Ducharme, ça conduit vraiment à des formes de violence. Et en cela, il est bien plus proche de Gombrowicz. Bon, parce qu'il faut aussi quand même que je te dise que ta lecture de l'immaturité chez Fréchette, c'est peut-être une lecture positive de la naïveté.
Je n'ai pas réussi à t'en
si, toi tout à fait.
Mais... Non, mais je pense, non, mais dans les quatre morts de Fréchette, je trouve qu'il y a quand même. Vive le lapsus.
Non, finis ta phrase.
Non, voilà. Dans les quatre morts de Marie, il y a quand même un aspect critique propre à l'immaturité. Je trouve qu'il est là de façon assez franche.
Tu l'as bien fait entendre, mais je suis pas convaincu dans le collier.
Je sais. Mais ce qui m'a marqué en écoutant quand même Sophie Lucet, j'ai trouvé intéressant parce qu'on retrouve toute cette idée de nous sommes occupés à halluciner le monde, on le fantasme, on fantasme l'autre. Bon, je n'ai pas lu ce texte de Sébastien Harrison, mais je trouve qu'on retrouve aussi cette position du personnage en l'immaturité qui dit, au fond, tout est à... Il faut l'inventer. On n'est que dans l'invention et ça semble rejoindre cette idée d'un imaginaire du monde qui est abordé par la voie de l'imaginaire.
Et l'idée aussi que le fantasme a un vrai pouvoir.
Oui, c'est ça
que je trouvais moi particulièrement intéressant dans le texte qui du coup devient très brillant de Sébastien et on se demande un peu quelle représentation on pourrait en faire parce que c'est assez compliqué de voir les personnages ainsi rajeunir à vue. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est que finalement ce qui au départ semble fantasme explique à la fin toute la réalité, tout ce qu'on avait pris pour des accidents du quotidien. Et ça c'est tout à fait passionnant, c'est un retournement. Brillant dans cette pièce.
Et puisque tu montrais pour la transformation à vue du personnage, enfin, c'est-à-dire que tout se transforme constamment et on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui ne l'est plus.
Oui, en fonction du désir de l'autre, en fonction de l'image projetée de l'autre. Donc là aussi, c'est un jeu qui finalement concerne les cinq protagonistes et qui dépose tous sur l'autre le fantasme qu'ils ont de l'autre. Donc là aussi, Sébastien parle dans son texte de couche, hein, c'est un terme qu'il utilise lui-même. Il parle aussi, il y a toujours cette métaphore du tableau dans son œuvre, comme si on découvrait derrière le premier tableau un autre, et ceci à l'infini. Et c'est ainsi, je crois, qu'il décrit les identités, les êtres, par ce jeu des apparences. Mais j'aime assez cette conclusion sur les pouvoirs de l'amour, effectivement. Dans la traite des peaux. Pardon ? Non, on dit les feux de l'amour dans les feuilletons.
L'amour n'a aucun pouvoir dans les feuilletons. Au contraire, c'est très normé tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres...
Peut-être que Sébastien veut dire quelque chose de son texte, non ? Il se cache.
Oui, c'était bien intéressant d'entendre une communication sur ce texte-là. On m'entend? Donc, parce que c'est un texte qui est toujours en chantier, donc j'en dirai pas plus parce que j'ai très peu de recul. Merci.
Juste pour relever le mérite de Sophie, c'est un texte extrêmement énigmatique pour l'avoir lu. C'est, donc voilà. Est-ce qu'il y a... Ah, c'est... Oui. C'est un sacré morceau, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou... Oui, Aurélia ?
Moi, je ne trouve pas qu'il soit si énigmatique que ça, parce que je l'ai mis en lecture. Et non, la seule chose que je voulais dire, c'est qu'à la fin, ils deviennent leur manque. Enfin, ils deviennent... les gens ne connaissent pas la pièce, mais en fait, ils deviennent les morts que vient visiter Lonely. Ils deviennent l'enfant et la mère. À la fin. Donc, enfin, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas si énigmatique que ça. C'est que, enfin, quand même, tout au long de la pièce, il y a le fait de devenir son manque. Enfin, ils vont devenir leur manque. Ouais. Et c'est pas forcément devenir l'autre. Enfin, ce qu'attend l'autre, c'est aussi devenir et c'est aussi, du coup, un amour impossible. Parce que je veux dire, c'est que c'est pas que les pouvoirs de l'amour, c'est aussi les échecs de l'amour.
Oui, tout à fait.
Et c'est aussi ce qui n'a pas pu être vécu. C'est ça que je voulais dire.
Oui, ben Sébastien disait hier qu'il a travaillé exclusivement. Enfin, au départ, l'idée première, disait-il, c'est la relation mère-fils aussi, hein, qu'il voulait travailler, qui était au cœur de cette pièce. Et puis, il dit qu'il est encore en train de gratter les couches et en train d'essayer de découvrir ce qui se cache derrière ces personnages qu'on découvre au fur et à mesure. D'où la difficulté à la première lecture du repérage, quoi. C'est quand même, effectivement, ça reste, en tout cas pour moi, pour Olivier, pour d'autres, relativement énigmatique au départ, quoi. Puis il y a cette idée de dont parlait Sébastien hier, d'une découverte ou d'une révélation à un certain moment, qui apparaît très très tardivement, hein, puisqu'on comprend un des jeux qui semble donner une lecture d'ensemble à la dernière ligne de la dernière page, quasiment, quoi. Hein,
Mais je pense que c'est très scénique aussi. Que c'est aussi quelque chose qui peut, à mon avis, être plus porté par l'espace, la manière dont les espaces sont poreux entre eux aussi.
Ouais.
Et je pense que scénographiquement, elle demande un travail qui peut permettre de la porter plus clairement. Je pense qu'elle est plus scénique que Titanic.
Oui, sûrement.
Enfin, moi...
Oui, je pense qu'elle est vraiment tout à fait... Enfin, on se demande comment représenter ça tout le temps. Ça, c'est vrai que la question est passionnante. On a envie de s'y coller.
Oui, alors scéniquement, ça paraît plus simple. Enfin, quand on y va.
Oui, oui.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a... On est un peu en retard. On va quand même faire une pause de quelques minutes, une pause café. On se retrouve ici dans une petite dizaine de minutes.
Donc on va commencer par une lecture d'extraits de la traite des peaux dont a parlé Sophie Lucet ce matin, donc texte de Sébastien Harrison. Lecture par Abdel Chanoulo, Mariette Navarro et Mathieu Roy, qui sont élèves à l'école du TNS en section mise en scène dramaturgie.
Et puis on enchaînera après avec une rencontre avec Sébastien Wilson et Aurélia Guillet, sur, animée par Chantal Regueras, sur Titanica de Sébastien Wilson. Voilà, merci.
Sébastien Harrison, La traite des peaux. L'histoire se passe en Floride, véritable personnage de la pièce, terre de conquête, de colonisation, mais aussi de promesses, où échouent les immigrés des utopies perdues, comme Suarez. Terre de métamorphoses chirurgicales et de mutations génétiques, où les frontières de la science et de la fiction vacillent dans une post-histoire apocalyptique. Tony, paisible représentante du troisième âge, est en train de devenir une espèce de mutante. Terre de découvertes et d'exploits scientifiques, Zoé est neurochirurgienne. Et puis il fait chaud, cette chaleur du Sud qui embaume les cerveaux, excite les fantasmes et les passions éphémères, ainsi que l'apparition du sempiternel fantôme revenu du fin fond de l'histoire, Sartram. Terre bâtarde, enfin, sans véritable identité, où tout est possible, même de recoller les morceaux calcinés d'un portrait de famille qui hante Lonely et le consume de l'intérieur. Infime pièce d'un puzzle que la furie primitive d'un ouragan emporte pour redessiner enfin de nouvelles frontières de l'humain.
La traite des peaux, Sébastien Harrison. Un bougainvillier m'a raconté qu'un jour dans l'ouragan, il avait vu, emporté au-dessus du golfe, les cadavres enlacés d'une mère et d'un fils, ceux-là qu'aujourd'hui, dans ce pays du Sud, on connaît comme la Vierge et l'enfant roux, enlacés dans l'ouragan au-dessus du golfe, la Vierge et l'enfant roux, emportés. Vieux refrain cubain. Le présent drame se déroule quelque part dans le sud de la Floride, entre les Everglades et une villa, une gare et un hydroport, mais aussi dans les fantasmes de tous ceux qui y sont impliqués, ce qui nous permet de convoquer au passage quelques anachronismes et autres fantaisies, dont un castor canadien aux longues dents. Sidemen, Suarez, Tony, Lonely, Zoé et le colonel Hurricane. Prologue. Histoire de la Floride, première partie. La Floride préhistorique. Seul en scène, devant une porte close, Suarez. Il porte des gants de jardinage. Il s'apprête à ouvrir la porte, mais se ravise, prend un temps pour s'adresser au public. Suarez. Autrefois, la Floride, cette main de terre que Mamacita me pointait en me disant que là résidaient tous nos espoirs de salvation, dans cette main de terre tendue qui semblait nous faire signe, nous qui croupissions là-bas sur notre île de Cuba, autrefois, cette Floride faisait partie de la chaîne volcanique qui donna naissance aux Antilles. Pendant longtemps, elle fut soumise à l'érosion, puis un beau jour, comme ça, submergée tout entière par les eaux. Elle retint son souffle, à croire qu'elle n'était vraiment pas humaine, et quand elle réémergea, des siècles et des siècles plus tard, elle était solidement attachée au continent américain et totalement dissociée du reste du monde. Entre l'ébauche du pays de Fidel et l'ébauche de celui de Bush, le pont venait d'être coupé. Ce serait pour nous, qui allions venir des millénaires plus tard sur la petite île oubliée où on roule des cigares en attendant la levée de l'embargo, une grande tristesse, une motivation pour apprendre à nager, le désir de quelque chose d'autre qui, à défaut d'être mieux, se veut au moins plus vaste.
Qui sait ? Si les glaciers avaient fondu plus rapidement, si les volcans avaient craché plus souvent, on n'en serait peut-être pas là, très loin de la crise des missiles et de moi, gamin, sur les épaules de Mamacita qui me faisait pointer Miami du doigt et narrer ses charmes salvateurs qui sont, en définitive, les feux du mal. Enfin, je dis cela, et vous pouvez vous demander à raison pourquoi. Pour faire bref, disons que c'est simplement parce qu'en ouvrant cette porte, c'est là qu'on met les pieds. Dans cette main de terre offerte entre l'Atlantique et le golfe du Mexique, à deux pieds, sur cette main de terre qui vous accueille toute caressante, mais qui à tout moment peut se refermer sur vous pour vous broyer. Chut. Les susceptibilités y sont parfois à fleur de peau. Il pose sa main sur la poignée. Un temps. Il se refait un air connu, celui de Suarez, le gentilhomme à tout faire cubain, dépourvu de toute opinion sur la marche du monde, puis ouvre la porte. Épisode 1, scène 1. Le salon de la villa. Taoni, une dame élégante de 70 ans, chevelure blanche nouée en un chignon, vêtements classiques et sobres, est assise à un secrétaire et épluche sa pile de courriers. Paraît sur le pas de la porte, Suarez. Suarez. Madame Taoni, y a quelqu'un pour vous. Un gars. J'étais dans la Pinède, à Loré, là où pousse ce bougainvillier, qui nous donne bien du souci, tout occupé à le soigner, quand j'ai relevé la tête et que je l'ai aperçu. Pas vu d'où il venait, le sud, le nord, l'est, l'ouest, c'est pas. Il était là, debout, bien planté comme un chêne qui porterait une perruque blonde. Il a parlé. Rien entendu, à cause du vent, ce foutu vent, bien entendu. Lui ai demandé de répéter, poliment, car il avait l'air pas d'ici, du genre précieux à avoir pris le thé chez une majesté des vieux pays. Il a dit « Où sont les tombes ? Je viens pour les fleurir. » Taoni se levant. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Suarez. « Ah oui, j'allais oublier. Il tenait dans une main un bouquet, des violettes. Pas de celles qu'on cueille dans les prés, mais de celles qu'on achète chez les fleuristes. Toutes pareilles, même poids, même couleur, pas de parfum. La mort. Taoni, dites-lui de partir. S'il insiste, appelez la police. »
Elle s'avance vers Suarez. Suarez, c'est que...
Derrière Suarez, dans l'embrasure, paraît Lonely. Suarez s'écarte pour nous le révéler. On ne peut plus Porn Star, un clone de Jeff Palmer, habillé très glam de la tête aux pieds, du genre irrésistible. La moitié de la salle lui demanderait un autographe, l'autre moitié, moins timide, lui proposerait volontiers une fellation. Il tient d'une main un bouquet de violettes et de l'autre une valise. L'apercevant, Taoni reste un moment sans voix. Suarez. Ah oui, autre chose. Dans une main, pas celle des violettes, mais l'autre, il traîne une... Lonely pose lourdement sa valise au sol. Suarez. Une valise, c'est ça, une valise. Taoni à Lonely. Vous, Lonely, moi. Taoni s'éloigne, va à la fenêtre. Les deux hommes restent à l'écart, muets. Suarez en profite pour détailler Lonely de la tête aux pieds avec un vague air de mépris. Lonely à Taoni. Ce n'est pas pour vous flatter, mais j'ai l'impression que depuis la dernière fois qu'on s'est vu, vous n'avez pas vraiment vieilli. Taoni, mal à l'aise, mais se ressaisissant. Préparez-nous du thé. C'est justement l'heure, Suarez. Suarez. De suite, Mme Taoni. Taoni. Vous aimez le thé, non ? Lonely. S'il est mauvais, comme pour toute chose, je recracherai.
Suarez sort. Lonely se déplace dans la pièce, scrute le territoire. Lonely. Vous auriez pas cru. Moi ici, chez vous, dans votre retraite d'hiver, mes pieds sur votre moquette, ma gueule dans vos miroirs, ça brise le fin équilibre de votre décor. Pas très feng shui, hein ? Taoni. L'année sera terrible selon les prévisions. Beaucoup de pluie pour les premiers mois, un litige pour les prochaines présidentielles. Il semble qu'un despote usurpera le pouvoir au su et au vu de tous. Puis un ouragan pour août ou septembre, quelque chose de dévastateur. 4 ou 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson. Lonely. Vous consultez une astrologue ?
Taoni. Non, je lis les journaux. Pour parler franc, je m'attendais au pire, mais honnêtement, à votre venue, je n'étais pas préparée.
Lonely. Le Miami Herald ne m'avait donc pas annoncé ?
Taoni. S'il l'avait fait, je ne l'aurais pas cru.
Et pourtant, je suis là.
Vous êtes...
Pas encore mort.
Partez.
Vous m'avez offert un thé.
C'était avant que vous ne parliez. Partez.
Pas avant de savoir.
Savoir ?
Où sont les tombes ?
reparaît Suarez portant un plateau de service à thé. Lonely. Rapide. Tony. Suarez a appris le service à la Havane, chez des aristocrates anglais en exil. Lonely. Quelle référence ? Suarez. Monsieur m'excusera si le thé est trop fort. J'ai toujours sur le feu un simulacre d'heure du thé, au cas où je voudrais écouter report. Tony. Servez-nous et retournez aux cuisines.
Suarez fait le service, exagérément attentionné. Suarez. Je n'ai pas entendu le moteur de la voiture qui vous a mené jusqu'ici. J'ai l'oreille fine pourtant. Vous avez marché de la gare à la villa ? Un peu long, non ? Vous avez peut-être fait du stop. Mais les camionneurs sont rares et les locaux particulièrement réticents à l'idée de faire monter un inconnu. Plutôt étrange en ces coins reculés à un visiteur qu'aucun moteur n'annonce. Lonely, ironique. Je me télétransporte. Un vieux truc, dans les gènes, vous savez. Suarez. Ah. Tony, on ne vous demande pas de faire la conversation aux invités, Suarez. Suarez. C'est que j'ignorais que monsieur avait été invité. J'avais cru entendre le contraire. Tony. Vous avez toujours été dur d'oreille. Suarez. Vous m'appelez si quelque chose... Tony. Ma voix porte jusqu'aux cuisines. Suarez. Je ne suis jamais loin. Tony. N'y a-t-il pas à l'orée de la Pinède un bougainvillier qui demande à être soigné ?
Suarez sort. Un temps.
Tony. Un brave type, ce Suarez. Mystique sur les bords, mais quelqu'un de bien.
Lonely. Nous parlions de tombe. Vous n'avez pas oublié ?
Lonely porte sa tasse de thé à ses lèvres.
Tony. Attention, c'est chaud, très chaud.
Lonely. J'ai rarement rencontré plus brûlant que moi.
Je me disais justement que vous aviez bonne mine. Vous avez profité du soleil ?
Non. Pas du tout. J'arrive du Canada.
Ah, je vois.
La neige nous y ensevelit à cette période-ci. Mais les esprits et les registres y sont généralement assez clairs.
Jadis, ma mère y a vécu. Elle y est née, en fait. D'ailleurs, toutes ces antiquités... De l'érable, un bois de là-bas.
On m'a dit de venir ici.
Vous savez, cette feuille assez jolie. Un bois très résistant.
Et les tombes... Elles sont marquées par quoi ? Petite croix de fer ? Petite croix de bois ?
Oui, oui, bien sûr. Les tombes...
Tony se relève, mal à l'aise, et va se planter devant la glace qui surplombe la cheminée. Ses prochaines répliques seront émises de là.
Si ça vous intéresse, je vous montrerai des photos de ma mère là-bas. Dans un traîneau, tiré par des chevaux, emmitouflé dans des pots, une femme grande et autoritaire, un brin slave. Elle venait d'une famille de garçons. On y chassait le phoque au harpon, le caribou au tir à l'arc. J'ai aussi hérité des armes.
Je parle de Face, ma femme, et de Junior.
Oui, ma fille, mon petit-fils.
Je veux me recueillir sur leur tombe.
Mon petit-fils, ce rouquin si adorable.
Mon fils, vous allez me le rendre. Me dire où ils reposent.
De quel droit ? Vous les avez abandonnés.
C'est faux. C'est elle qui est partie en l'emportant. Arracher un enfant à son père.
Un père ? Vous ne lui avez pas donné d'autre choix. Ils ont fui, puis ils sont morts.
Vous m'avez toujours méprisé. Dites-le.
Cessez votre petit numéro.
Oh ! Attention ! Vos rides de hargne refont surface.
Chaque once de votre chair m'exaspère, m'a toujours exaspérée. Dès ce jour où Face vous a traîné dans notre salon de Chicago pour nous annoncer qu'elle allait vous épouser.
Faites-le pour elle. Elle m'aimait. Et pour lui...
Vous l'aurez à peine connu.
Il m'écrivait. Il apprenait à écrire. Je lui répondais.
Vous avez tout brisé. Puis maintenant, vous revenez avec votre petit bouquet de violettes et il faudrait que je vous dise « Oui, ils sont là-bas. Allez, allez sur leur tombe jouer le rôle du père et du mari éploré. Le cinéma, c'est votre métier, non ?» Dans un registre différent, mais...
Vos rides ont changé. Ce ne sont plus les mêmes qu'avant. Ça se voit avec cette lumière-là.
Laissez mes rides, terminez votre thé et partez.
Je veux savoir.
Rien. Vous ne tirerez rien de...
Lonely laisse tomber sa tasse de thé au sol. Tony sursaute. En proie à un malaise, il se replie sur lui-même.
Vous vous sentez bien ?
Un vertige.
Ressaisissez-vous ?
Tout s'embrouille. Je vous vois comme si vous étiez quelqu'un d'autre.
Respirez.
Le froid, le chaud, Il faisait si froid au Canada, il fait si chaud ici.
Vous, il s'effondre. Suarez paraît instantanément puisqu'il écoutait derrière la porte close. Suarez, le bougainvillier va mieux? Tony, notre visiteur s'est évanoui. Suarez, pourtant le thé n'était pas drogué. Tony, faites quelque chose. Suarez se penche sur Lonely, le secoue un peu. Suarez, une simple faiblesse, ne vous en faites pas, il vit toujours. Lonely, revenant à lui. Les tombes. J'ai fermé les yeux, croyant apercevoir les tombes. Un désert, j'ai vu un désert, que froissaient de grands vents, des vents terribles. C'était avant une ville, mais tout avait été emporté. Suarez, il parle même. Tony, un choc thermique probablement. Suarez, il est bouillant. Lonely, je suis glacé. Tony, le Canada, ce maudit Canada. Suarez, c'est bien connu, on y prend froid. Tony, portez-le jusqu'à la salle de musique. Il dormira ici. Il est de la famille, après tout. Suarez, lui, c'est dans la salle de musique. Tony, il y a suffisamment d'espace dans cette maison. Suarez, comme vous voudrez, la salle de musique. Suarez prend dans ses bras Lonely et le soulève comme un enfant. Lonely, la salle de musique, les tombes. Tony, portez-le. Suarez sort en portant Lonely. Un temps, Tony retourne vers la glace. Elle examine son visage, ses rides, tire un peu sa peau pour les estomper, puis enfouit son visage entier dans ses deux mains tachetées par l'âge.
Scène 2. La nuit, le salon est plongé dans l'obscurité. Sortant de la salle de musique et marchant sur la pointe des pieds, l'air horrifié, brandissant comme arme une lampe débranchée, paraît Lonely. Lonely, recule. Tu crois que tu vas me faire peur, que je vais te laisser me raconter tes sales histoires comme à Junior? Ne reviens jamais ici, tu m'entends? Sinon je vais te faire la peau. Va-t'en. Soudainement, un coup de vent. La porte-fenêtre s'ouvre brusquement. Lonely pousse un grand cri. Lonely. Va-t'en, j'ai dit. Va-t'en, sale bête.
Le lustre au-dessus du grand escalier s'allume et Tony, en peignoir, paraît sur le palier.
Tony, calmez-vous.
Lonely. Par là, il est parti par là.
Tony, ne criez pas comme ça. Tout va bien. Calmez-vous.
Elle le rassure comme un enfant, le force à s'asseoir.
Je me suis éveillée et il était là, au pied du petit lit de camp, assis sur ses deux pattes de derrière, à me regarder dormir.
Un cauchemar.
Il était là, avec ses yeux qui brillaient et ses deux dents effilées qui effleuraient mes orteils. Il a ouvert la gueule pour parler ou pour me mordre, je ne sais pas, mais je lui ai dit de déguerpir. Il est parti par là, en courant d'une drôle de façon, lente et malhabile.
Qui? Mais qui, Lonely?
Un castor.
C'est impossible.
Il est venu jusqu'ici pour me traquer.
Un cauchemar, voilà tout.
Par là, il a fui. Par cette porte, il me suit, me traque. Depuis cette lettre, je le sens près de moi.
Quelle lettre?
Dans tous les hôtels, sur la route du Canada à ici. Dans les chambres, partout, je sentais son odeur. Et ce soir, il est apparu, ici. Il a retrouvé ma trace jusqu'ici. Il est là.
Dans l'embrasure de la porte-fenêtre paraît Suarez, vêtu d'un pardessus et tenant à la main des clés de voiture. Tony et Lonely sursautent en l'apercevant.
Suarez, vous ne dormez pas? Il y a un problème? Tony, un cauchemar. Notre pauvre Lonely a cru apercevoir un castor. Suarez, un castor. Lonely, avec de grandes dents. Suarez, mais c'est impossible. Tony, c'est ce que je lui expliquais. Suarez, impossible en Floride. Tony, tout va bien, Lonely. Vous allez vous remettre au lit maintenant. Elle le raccompagne dans la salle de musique. Laissé seul, Suarez vérifie la porte-fenêtre, testant son verrou. Tony revient.
Tony, à peine étendu, il a sombré dans un sommeil profond. Il n'est vraiment pas bien, je crois. Il faudrait lui faire voir un médecin.
Suarez, la porte ferme mal. Un coup de vent a dû la faire claquer. Je verrai demain à la réparer.
Vous étiez sorti ?
Oui, il y avait une cérémonie pour notre sainte patronne à l'ermita de la Carida. La route est longue d'ici à là-bas.
Vous êtes si pieux, mon cher Suarez. Vous êtes sûrement dans les faveurs de votre Vierge de la Charité. Vous avez bien refermé le portail ?
Ne vous en faites pas. Nous sommes en sécurité.
Scène 3. Tôt le matin, Tony seul dans le grand salon. Le téléphone sonne. Tony. Lorraine, ma chère Lorraine. Un temps. Ah, vous êtes bien renseignée. Quelqu'un au village, je vois. Oui, je sais bien, vous n'êtes pas un... Ah, un camionneur, évidemment. La dame du snack du terminus. Oui, exactement, il venait chez moi. Oui, oui, j'allais vous le dire, mais vous l'avez deviné. Mon gendre, cela vous étonne ? Non, il... Oui, il va bien. En deuil, évidemment. Ah, on vous a dit qu'il était blond. Non, en effet, ce n'est pas naturel, mais entre vous et moi, qu'est-ce qu'il est véritablement de nos jours ? Un banquier, c'est ça, oui, un banquier. Il est très occupé, c'est son métier. Face avait su dénicher un bon parti. Ah, un temps. Le camionneur aura mal compris, voilà tout. Et, oui, et la serveuse du snack aussi. Les échanges sont si superficiels parfois, vous savez. Elle, lui disait que... Non, c'est faux, totalement faux. Vous ne m'insultez pas, pas du tout. Comment nomme-t-on ce procédé déjà ? Le téléphone slave, arabe, chinois ? Oui, je sais que nous sommes en Floride. Elle éloigne le combiné de sa bouche. Oh, je ne vous entends plus. La ligne, oh, elle est mauvaise, du vent, du tonnerre. Elle s'empare du tisonnier et frappe vivement sur la structure du foyer. Je vous perds, Lorraine ! Je vous perds ! À croire que tout cela est bien floridien, non ? Elle raccroche, soupire, puis va vers la glace qui surplombe le foyer, contemple ses rides, l'air préoccupé. La sonnerie du téléphone se fait entendre à nouveau, mais elle ne répond pas. Tony. Suarez.
Scène 4. Le salon désert, plus tard dans la matinée, le soleil entre par les grandes portes vitrées. Paraît une jeune fille sur la terrasse. Elle cogne discrètement pour la forme et entre. C'est Zoé. Bien que jolie, elle a un côté très peu coquet, indiscutablement garçon manqué. Elle porte sûrement à cette heure matinale une casquette de baseball, d'où émergent ses cheveux noués en une queue de cheval et un survêtement de sport. Zoé. Tony. Tony, c'est moi. Elle se promène un peu partout dans la pièce, cherchant la maîtresse des lieux et l'appelant. Au bout d'un moment, elle s'assoit dans un fauteuil, prend sa tête entre ses deux mains, catastrophée. Zoé. Merde de merde de merde. Je parie qu'elle est à Tampa pour ses... Soudainement, elle se redresse. Une lampe de poche. Il doit... Lonely sort alors de la salle de musique, tout endormi, plutôt légèrement vêtu. Zoé l'apercevant. Vous...
Lonely, la femme de ménage ?
Je...
Non, trop jeune, trop jolie, trop vive.
La voisine, la fille des Doukakis.
Ça semble important pour vous d'être la fille de quelqu'un.
Zoé gênée. Zoé, je m'appelle Zoé.
Enchantée, mademoiselle V.
Vous avez fait du grec ?
J'ai vécu, c'est différent.
Ah, excusez-moi, j'ai cogné, mais une panne d'électricité. Plus rien ne fonctionne. Le tableau des fusibles est à la cave. Je n'y comprends rien et il y fait noir comme en enfer. Le service a peut-être été interrompu. J'ai pensé à venir ici. Tony et moi avons sympathisé il y a quelques semaines au marché. Depuis, on se voit de temps à autre. Pas vraiment des amis. Mais vous savez, je suis seule ici. Mes parents à Houston. Je prépare mes examens. L'école de médecine en septembre, si tout va bien. L'écran de mon laptop s'est soudainement éteint.
Lonely, ne l'écoutant plus, va prendre la télécommande du téléviseur, appuie sur un bouton et celui-ci instantanément s'allume. Voix télé. USA Today, weather forecast, great news for the South, bad ones for the North. The Sunshine State will... Lonely appuie sur le bouton qui permet d'éteindre le téléviseur.
Zoé. Alors c'est seulement chez moi que ça ne va pas.
Lonely. Vous n'allez quand même pas en mourir. Taoni ne doit pas être bien loin.
Le Cherokee n'est pas là. Elle doit être sortie avec Suarez pour des courses.
Dans ce cas, Vous prendrez bien un café avec moi en l'attendant ?
Vous êtes qui, vous ? Vous êtes sorti de la salle de musique, mais ne vous êtes pas présenté.
Un accordeur de piano.
Ah !
Je blague. J'imagine que cette chère Taoni a son accordeur attitré qui vient tous les mois.
La salle ne sert jamais. Taoni l'avait aménagée pour son petit-fils qui vivait au Canada. Malheureusement, il est mort avec sa mère. Un accident atroce. C'est ridicule, je vous raconte tout ça, mais j'imagine que vous savez...
Oui. Je suis le père de l'enfant qui n'étendra jamais ses mains sur ce clavier.
Un temps. Zoé accuse le choc.
Excusez-moi, mais... mes condoléances.
Merci.
Zoé tentant de relancer la conversation. Vous avez bien un nom, un métier ?
On me nomme Lonely, et je suis ce qu'il convient d'appeler une star du porno. Autodidacte, je tiens à préciser.
Ah, c'est plutôt sympathique. Je veux dire le surnom, Lonely. Certains diraient que c'est triste, un solitaire, mais moi je pense à ces pierres fines et rares, vous savez, qui brillent au bout d'une chaîne.
Qui brillent au bout d'une chaîne, oui. L'origine de ce surnom est un peu plus concrète. Je jouis toujours en dernier, en solitaire, même dans les scènes d'orgie. Une sorte de politesse à l'égard de mes partenaires. Vous voyez ? Mon côté gentleman.
C'est tout à votre honneur.
Vous prendrez bien un café ?
Oui, oui. Pourquoi pas ?
Ils sortent, direction cuisine.